Et donc, on obtient une position qui serait compatible avec une position de la théologie chrétienne de la création en pensant une médiation entre science et théologie. Alors, quelle est cette médiation? Eh bien, traditionnellement, cette médiation est justement occupée par la philosophie. Alors, pourquoi? Pourquoi? Eh bien, parce que la philosophie, rappelez-vous ma définition, la philosophie est l'ensemble des discours qui clarifient, hein, qui essayent de résoudre des questions de sens, de fondement et de valeur. Mais d'où viennent ces questions? Mais, entre autres, ces questions viennent du lieu scientifique. J'ai dit que ce n'est pas possible de faire de la science sans, dans le fond, susciter tous les jours des questions de sens, de fondement et de valeur. Mais les sciences, par leur méthode, ne peuvent pas répondre à ces questions. Parce que justement, la science dit, moi je mets entre parenthèses des questions de sens, de fondement et de valeur. La science suscite inévitablement des questions auxquelles la science elle-même ne peut pas répondre. Elle ne peut pas répondre par elle-même à ces questions. Mais elle a plein de questions qui germent autour d'elle. Mais elle ne peut pas par elle-même y répondre. Mais il y a un discours qui prend ces questions et qui a comme objet les questions de sens, de fondement et de valeur. C'est précisément la philosophie qui va décanter ces questions, dégager ces questions et les traduire dans un langage qui, lui, parle du sens, du fondement, des valeurs. Par exemple, le physicien va dire, regardez, il y a une histoire du cosmos, et ce qui est étonnant, c'est que pour expliquer quelque chose, je dois toujours partir d'une réalité physique préexistante. Le philosophe va s'emparer de cette question en disant, mais donc ce que vous voulez dire, c'est que il y a une question fondamentale d'existence qui n'est pas résolue chez vous. Le physicien va dire, ben oui, c'est vrai. Je pose toujours un existant pour expliquer quelque chose qui existe. Effectivement, se pose la question de l'existence. Le philosophe va donc dire, donc se pose la question de l'existence, et comment pourrait-on la résoudre? Quelles sont les différentes possibilités de résoudre la question de l'existence? Mais il n'y a pas 36 solutions, dira le philosophe. Soit quelque chose existe par lui-même, il est sa propre cause d'être, okay, soit il reçoit son existence d'une autre réalité qui, elle, existe par elle-même. Okay. Donc d'un côté, l'éternité de la matière qui existe par elle-même, matérialisme, de l'autre, la solution de la création, une cause externe au monde, mais qui pose le monde dans son existence et lui donne d'être. Et le philosophe passe en revue toutes les possibilités. Il va même retrouver dans l'histoire des arguments, des descriptions particulières, va prendre tous les possibles. Mais le philosophe lui-même se trouve devant un problème. La philosophie va se trouver devant différentes possibilités. Quelle est la possibilité qui pourrait s'imposer? Existe-t-il des arguments pour préférer le matérialisme à une théologie de la création, une métaphysique de la création? Suis-je condamné à l'agnosticisme? Y a-t-il des arguments qui pourraient me faire pencher vers l'un, vers l'autre, etc.? Et c'est là, d'une certaine manière, que le théologien peut être interrogé. Car dans la tradition théologique, précisément, un certain nombre de réponses ont été offertes au problème de l'existence fondamentale. Le théologien a des mots et des concepts pour caractériser cette cause qui existe par elle-même et qui n'est pas elle-même causée. D'accord ? Elle va parler de Dieu créateur. Elle va préciser un certain nombre de choses concernant cette cause et peut-être éclairer les différentes branches de l'alternative pour dire, moi je favorise telle branche de l'alternative pour telle raison. Et donc, dans le fond, ce que fait le théologien, c'est éclairer, à partir de son lieu, qui est celui de la révélation, de l'enseignement de l'Église, etc., éclairer cette indétermination qui est laissée par le philosophe. Mais ce que vous voyez dans mon schéma, et c'est ce que je veux essayer de faire comprendre, c'est que ce n'est pas immédiatement, vous voyez, une question de particules élémentaires ou de Big Bang qui est immédiatement parachutée dans la théologie. C'est plutôt des questions à propos de la science qui sont dégagées dans le champ philosophique et qui sont alors portées, si vous voulez, à l'éclairage de la théologie. Okay? Des questions surgissent sur l'existence. Le philosophe va traiter la question des possibilités des causes de l'existence et le théologien va dire « Mais moi, j'ai une manière de parler de la cause de l'existence et d'éclairer ce problème-là. » D'accord ? Bien. Maintenant, en retour, donc ça c'est, si vous voulez, on pourrait dire, des questions surgissent inévitablement de la science mais ne peuvent pas être résolues dans la science. Elles sont analysées par le philosophe. Le philosophe, donc, dégage, découvre des questions dans les sciences. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler le moment d'une herméneutique de la nature. Herméneutique philosophique de la nature. Parce que eurisco, ça veut dire je découvre. Donc le philosophe va découvrir dans les contenus scientifiques une série de questions qui ne sont pas scientifiques, qui sont philosophiques, et sur lesquelles lui peut dire des choses. Et on pourrait dire ici, ce sera le moment d'un éclairage théologique sur des questions typiquement philosophiques, si vous voulez. C'est le moment d'une théologie de la nature, une théologie de la nature, mais comprise non pas au sens concordiste, hein, c'est le moment d'une théologie de la nature, qui, à partir de questions philosophiques dégagées dans le cadre d'une herméneutique philosophique de la nature, hein, va apporter un certain nombre d'éclairages, d'arguments, etc. D'accord ? Donc, on ne passe pas directement de la molécule à la parole biblique, on passe de questions qui surgissent à propos des molécules, qui sont clarifiées en des termes philosophiques, et qui sont ensuite présentées au regard de la théologie. Je prends un autre exemple. Quand on décrit, et j'y reviendrai, l'histoire de l'univers et de la vie, ce qui est tout à fait caractéristique, c'est de voir que dans l'univers, il y a du jeu. Donc le scientifique décrit la nature non pas comme un processus linéaire qui serait comme téléguidé, comme encagé dans une espèce de rail où plus rien ne pourrait dévier à gauche et à droite. Ce que décrit à la fois le physicien, cosmologiste, et à la fois le biologiste, c'est à l'intérieur du cosmos, une immense présence, enfin une présence énorme de degrés de liberté. On a l'impression que ce qui se fait, et aussi de plus beau, germe à partir d'un espace dans lequel des tas de possibles sont présents. Je parlais du Big Bang biologique, et on pourrait dire, quand vous regardez la vie, on a souvent parlé de l'arbre de la vie, avec différentes branches, mais aujourd'hui on devrait parler d'un buisson de la vie, parce que c'est vraiment des branches qui partent dans tous les sens, avec des connexions, avec des tas de branches, des transferts de l'une à l'autre. On a l'impression qu'il y a comme un jeu. Life is tinkering, la vie c'est comme du bricolage, disait François Jacob. Il y a quelque chose comme un espace de liberté. Bon, alors quand je dis ça, je suis parti de l'arbre évolutif qui lui est décrit par la phylogénie moléculaire, par exemple, ou bien par la systématique biologique, etc. Et je me dis, mais tiens, quel est le sens de ça? Par exemple, si les biologistes avaient décrit l'histoire de la vie comme ça, je pars de ça et j'arrive à l'homme. Mais ce n'est pas ça. L'histoire de la vie, c'est plutôt quelque chose comme ça. C'est ça, l'histoire de la vie. D'accord? Ça, ce n'est pas ça. La question est de savoir quel est le sens de ça, quel est le sens de ça. Et le philosophe va récupérer ça en disant, mais est-ce que la trace, cette trace-ci, qui est finalement la présence de beaucoup de degrés de liberté, le sens de ça, est-ce que ce n'est pas finalement la présence au cœur du cosmos d'une sorte de liberté ou d'autonomie fondamentale? Le cosmos ne serait pas téléguidé comme un missile vers sa cible, mais à l'intérieur du cosmos, se trouvent les conditions nécessaires d'une liberté qui s'affirme, vous voyez, d'une autonomie à l'intérieur du créé. Ce n'est pas un automate téléguidé, c'est plutôt un lieu où s'exprime une liberté. Bon, mais le théologien, voyez, ça c'est la philosophie. Traduire l'arbre, ça c'est de la biologie systématique, la phylogénie. Traduire ça en termes de degré de liberté, d'autonomie et de liberté. Ça, c'est de la philosophie. Mais le théologien va dire, oui, mais dans la théologie de la création, quel est le projet de Dieu pour le monde? Le théologien dirait, Dieu n'a pas créé des êtres pour les téléguider. Dieu n'est pas un producteur de robots qui vont être téléguidés pour le servir. La création est une création orientée, dirait la théologie chrétienne, vers la naissance d'êtres capables librement d'aimer Dieu. Si je suis un robot obligé d'aimer, il n'y a plus d'amour. L'amour nécessite la liberté. Il n'y a pas d'amour sans liberté. Mais si, oui, je termine. Il n'y a pas d'amour sans liberté. Et donc, dans le fond, le théologien va dire, mais est-ce que s'il n'y a pas d'amour sans liberté, alors si Dieu voulait l'émergence de créatures libres, alors il fallait que soit inscrit dans la structure même du devenir cosmologique un espace pour la liberté. Et là, le théologien donne du sens à ce qui était dégagé par le philosophe comme l'idée d'une autonomie ou d'une liberté à l'œuvre dans le cosmos. D'accord ? Et donc, on n'est pas passé de l'arbre phylogénétique directement à une théologie de la création, où on parle de l'amour de Dieu pour ses créatures, etc. Mais on est passé par cette étape intermédiaire, par cette médiation qui dégage la question et qui l'ouvre au théologien pour que le théologien puisse donner un surcroît d'intelligibilité. Vous voyez ? Et ça permet de ne faire ni confusion, qui mènerait au panthéisme, ni séparation, qui reviendrait à dire ce que je vois dans le monde n'a rien à voir avec la théologie. Mais au contraire, articule sans fusion, sans confusion, ni séparation radicale. D'accord ? Et donc, dans la suite du cours, j'essaierai d'avoir ça en trame, en disant, ce que nous devons faire, c'est regarder les sciences et ce qu'elles nous disent de l'homme, à partir d'une méthodologie qui va essayer de dégager un lien entre ça, ce que nous disent les sciences, et la théologie, au travers d'une médiation philosophique. D'accord ? Et si nous faisons ça, alors nous serons dans la juste ligne de l'ontologie de la création et nous éviterons les écueils du concordisme et du discordisme. Bien.